Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Hélène Kerkeny. Comme tous les mois, nous partons en voyage à l'heure exquise entre chien et loup, qui porte cette fois bien son nom, puisque nous allons, pour fêter le printemps prochain, nous rendre au Jardin des Plantes de Paris, avec Francky à la technique, que je remercie beaucoup d'avance. Donc le Jardin des Plantes, ben, tout le monde a l'impression de connaître, et puis en fait il est tellement plein de ressources que même si on y est déjà allé une fois, le fait d'y revenir va nous procurer de nouvelles surprises. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai pris ma visite. Donc chaque année, figurez-vous qu'il accueille un nombre mais impressionnant et en constante augmentation en plus de visiteurs qui viennent ou le découvrir ou le redécouvrir. C'est donc le Muséum National d'Histoire Naturelle, tout un programme. Devant mille et un chemins ouverts, c'est plus que jamais le cas de le dire, nous allons éveiller tous nos sens, des orchidées à la ménagerie, de la grande galerie de l'évolution, ça au moins tout le monde en a entendu parler, même si vous n'y êtes pas allé, mais franchement c'est incontournable, il faut absolument y aller. Aux autres galeries, tout aussi intéressantes, des expositions temporaires au jardin thématique. Une exposition, hélas, vient de s'achever. Elle était intitulée « Mille et une orchidées ». Et ces orchidées ont éclairé de mille couleurs les grandes serres. Vous connaissez les grandes serres, hein, qui sont déjà un lieu tellement emblématique du Jardin des Plantes. Alors, comme elle reviendra l'an prochain, puisque c'est une exposition annuelle, nous allons l'évoquer et puis élargir à la multitude d'orchidées, leur origine, les lieux où on les trouve aujourd'hui en France et dans les contrées tropicales, bien sûr. Et puis nous irons visiter ensemble l'exposition Mini-Monstres qui dure jusqu'au 23 avril, à voir en famille, avec grands et petits. Alors on a l'impression que Mini-Monstres, c'est fait pour les enfants. C'est vrai, c'est fait pour les enfants, mais les adultes y prennent un grand plaisir aussi. Et puis enfin, le directeur du département des galeries nous emmènera dans cet univers de la paléontologie, de la minéralogie, de la grande galerie de l'évolution, je vous le disais, et au bout du compte, ben j'espère que nous aurons tous envie de nous balader à nouveau ou pour la première fois parmi les multitudes de plantes, d'arbres, d'animaux du plus petit au plus gigantesque. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir, et tenez-vous bien, en présentiel, c'est assez rare pour que je le souligne et pour que je remercie mes deux invités d'être venus jusqu'à nous, jusqu'au studio d'Anguin. Deux grands spécialistes des orchidées, et puis vous allez le découvrir, ils ne sont pas seulement spécialistes d'orchidées. Jean-Michel Hervouet, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais déjà citer tout ce que vous avez fait dans votre vie, et j'en ai pour un petit bout de temps. Donc, vous êtes président de la Fédération France Orchidées, d'orchidophilie. Ça, c'est votre statut actuel.
Voilà.
Mais peut-être que vous continuez aussi, ça je ne sais pas, comme vous avez l'air beaucoup plus jeune que j'imaginais. Donc vous êtes...
66 ans.
Oui, eh bien c'est ce que je disais. Alors vous êtes ingénieur senior, donc vous l'êtes toujours.
Non, je suis retraité.
Vous êtes retraité.
C'est vrai que j'aurais bien continué, je faisais de la recherche à EDF, j'étais ingénieur-chercheur senior.
Oui.
J'aurais bien continué, mais la passion des orchidées a pris le dessus.
Donc, on peut comprendre, hein, entre EDF et les orchidées... Moi, je comprends votre choix, franchement. Hein. Surtout arrivé à un certain stade de la vie, on va dire. Donc, ingénieur senior au laboratoire naturel d'hydraulique et environnement de la branche recherche et développement d'EDF, système hydraulique Télémac, enseigne la mécanique des fluides. Alors, vous avez enseigné la mécanique des fluides. Alors, les fluides, donc, les gaz et les liquides, mais quand même, vous nous en direz un petit peu plus
si
tout à l'heure,
voulez,
parce que ce terme mécanique des fluides, je ne sais pas pourquoi, ça fait un drôle d'effet. C'est beau. On imagine l'espace, peut-être que je me trompe, hein, mais voilà, ça fait rêver, en tout cas. Bon, peut-être que vos étudiants rêvaient un peu moins avec vous. On va voir. Donc à l'École nationale des ponts et chaussées, à l'École nationale supérieure de technologie avancée, à l'École des ingénieurs de la ville de Paris. Je vous disais, enfin je disais à nos auditeurs.
Vous êtes très bien renseigné, oui, oui.
Oui, non mais je fais mon travail. Hein. Donc voilà, ça c'est pour Jean-Michel Hervouet. Nous allons revenir quand même à notre sujet et puis ensuite je présenterai mon deuxième invité. Vous êtes l'auteur du livre, Jean-Michel. Alors, de deux livres, c'est ce que j'ai noté, il y en a peut-être d'autres parce que j'imagine que oui. Donc en 2011, vous avez écrit, vous avez collaboré peut-être parce qu'une encyclopédie, vous ne l'avez pas écrite tout seul.
Sur les orchidées.
Encyclopédie des orchidées tropicales, tout seul.
Ça, c'était mon collègue Pascal Descourvières, mais effectivement, j'ai fourni pas mal de photographies.
Voilà, vous avez participé.
Voilà, hein. Oui.
Et puis, en 2018, à la recherche des orchidées de Madagascar.
De Madagascar, voilà.
Bon.
Qui était mon deuxième livre, le premier étant sur la mécanique des fluides.
Eh bien, bien sûr. Oh, ben merci de me ramener à la mécanique des fluides. Je voulais justement qu'on en parle. Alors, est-ce que, en quelques mots, hein, parce que ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais... C'est toujours intéressant. Est-ce que vous pouvez nous définir la mécanique des fluides ?
Ah ben c'est la science qui étudie le mouvement des fluides. Donc moi, c'était les fluides à surface libre. Et donc, j'ai construit dans pratiquement toute ma carrière un logiciel qui calculait les crues, les marées, hein, et donc qui servait à la protection des centrales d'EDF.
Voilà. Ah, d'accord.
Mais ça servait aussi, en fait, c'est un logiciel qui est toujours offert en libre sur Internet. Mm-hmm. Donc, il y a 4 ou 5 000 utilisateurs dans le monde. Et tous les ans, il y a un congrès consacré à ce logiciel.
Ah, d'accord.
Qui, par exemple, calcule dans la Manche, par exemple, prévoit les marées. Voilà.
Et oui, bah c'est drôlement important. Et puis, ça va le devenir de plus en plus. Hein, étant donné que les océans vont monter, votre logiciel va être précieux. Est-ce qu'il va être remis au goût du jour, sans doute?
Ah, ben, il y a toujours une équipe. C'est en fait un consortium international qui continue son développement. Voilà. Donc ça, je suis très content que ça, j'ai réussi à transmettre.
Ben bien sûr.
ce que j'ai fait et ça continue.
Mais on peut comprendre que vous soyez content de vous, bien sûr qu'il faut l'être. Alors, vous êtes vice-président de l'Association des Amis de la Forêt.
De la forêt d'Ambodiriana à Madagascar.
Voilà.
Donc ça, c'est une autre casquette, oui.
Oui, alors on va en parler à l'heure, parce que j'ai trouvé que c'était très joli, cette forêt des Trois Sirènes. Donc, on en parlera un petit peu. Et quand même, une question qui me vient tout de suite à l'esprit, quel est le rapport entre la mécanique des fluides et les orchidées, Jean-Michel ?
Alors, il n'y en a pas beaucoup,
d'accord,
mais j'en ai quand même trouvé un. Hein,
oui.
Et le rapport, c'est Robert Brown. Alors, Robert Brown, c'est pas le Robert qui est avec nous aujourd'hui, c'est un Anglais, c'est un immense botaniste anglais qui était surnommé Jupiter Botanicus, comme vous voyez.
Oui, oui.
Et il a beaucoup travaillé sur les orchidées, justement, en Australie. Hein, il a décrit un grand nombre d'espèces d'orchidées d'Australie. Et puis, un peu par hasard, il travaillait sur le pollen et il a découvert qu'en regardant au microscope des petits grains de pollen, il y avait des particules qui s'agitaient bizarrement. Et en fait, Robert Brown a découvert le mouvement brownien. Et c'est pour ça qu'il est célèbre, en fait, pour la découverte du mouvement brownien. Qu'est-ce que c'est que le mouvement brownien?
C'est
des toutes petites particules, des petits morceaux de pollen qui sont secouées, agitées par l'agitation moléculaire, par la chaleur, en fait, donc par les atomes qui se déplacent en tous sens et qui tapent dans des tout petits objets.
Oui.
Et à notre échelle macroscopique, on ne le voit pas, ça.
Oui.
Alors, c'est la pression, atmosphérique. C'est l'agitation des atomes qui nous frappe. Mais à une échelle microscopique, ces petits objets reçoivent des coups d'atomes, en fait, ou de molécules qui les percutent et ça les fait bouger. Et on peut le voir au microscope. Donc, Robert Brown a vu ça
d'accord.
au microscope et il n'a rien compris à ce qu'il voyait. Il pensait que c'était des particules vivantes.
Mm-hmm.
Et ça n'est que Einstein, plus tard, qui a montré que, en fait, non, ce qu'on voyait, c'était à l'œil nu le mouvement des atomes. C'était la première preuve visible de l'existence des atomes.
Mais quelle découverte !
Le lien entre mécanique des fluides et botanique.
Ok, comme ça, on comprend un petit peu mieux. Hein. Restons modestes, en tout cas, de mon point de vue. Mais on comprend un petit peu mieux, effectivement. Bon, merci beaucoup pour ce lien. Et donc, on a compris le rapport entre la mécanique des fluides et les orchidées. Mon deuxième invité, c'est Robert Guichard. Bonjour, Robert.
Bonjour.
Alors, vous êtes le secrétaire général de la Fédération France Orchidées. Vous êtes président d'Orchidées 78. Et puis, vous faites des conférences intitulées, par exemple, « Les chasseurs d'orchidées ».
Absolument.
Eh bien, ma question, c'est bien sûr, d'où vous vient cette passion ?
Ah, cette passion, elle a commencé, j'avais 24 ans.
Ah, c'est... Enfin, je ne vais pas dire que ça fait si longtemps que ça, mais ça fait quand même...
Ça fait quelques années. J'étais en formation pour devenir ingénieur horticole.
Oui.
Et j'ai découvert les orchidées. Et les orchidées, elles sont extraordinaires puisqu'elles sont superbes, et qu'elles sont extrêmement diverses. Qu'elles nous font une démonstration extraordinaire de la relation entre les insectes et les orchidées.
C'est ça.
Imaginez une évolution qui a duré 90 millions d'années, où les insectes et les orchidées ont coévolué ensemble et ont fait la démonstration d'une adaptation de la nature à des contextes multiples.
Parfait. Donc on sent hein, la passion, bien sûr. Et vous m'avez dit que vous étiez apiculteur.
Oui, je suis apiculteur. J'ai commencé l'apiculture aussi, j'avais 14 ans.
Ah oui,
oh là. Et donc, ça fait très très longtemps. C'est vrai que j'ai longtemps été très passionné. Je lisais tout ce qui sortait sur les abeilles à l'époque, ce que faisait l'INRA, par exemple, à l'époque. Oui. Et j'ai continué parce que je trouve ça sympa. En fait, ça fait partie de moi, les abeilles, maintenant.
D'accord. Et vous étiez où pour aimer comme ça les abeilles ?
Mais écoutez, j'habitais dans le Poitou.
Oui.
Et dans le Poitou, il y a la nature. Et puis, je dirais que c'est un peu par hasard. Un jour, j'ai eu l'opportunité de pouvoir, avec mon père, commencer avec quelques ruches. Oui. Et puis ensuite, j'ai continué tout seul.
Alors, je ne vous demande pas par indiscrétion où vous étiez. Mais quand même, je pense que sur les toits de Paris, il y a des ruches, qu'il y a du miel qui est fait. On se dit que les abeilles, elles vont butiner les petites fleurs qu'elles trouvent dans Paris. Il y en a encore. Et c'est pour ça. Je voulais savoir si c'était un lieu vraiment naturel.
Non, c'était à la campagne.
C'est quand même un peu plus propice.
Avec une des superbes forêts d'acacia où les abeilles peuvent aller butiner et produire un miel jaune qui est vraiment superbe et délicieux.
Oui, et délicieux.
Je peux témoigner.
Bon, vous en avez goûté.
Mais en région parisienne, on a aussi les tilleuls. Et j'ai aussi quelques ruches en région parisienne. Et quand on a des grandes avenues avec des tilleuls, quand ils sont en fleurs, ça produit aussi un miel qui est très, très goûteux, très, très agréable et que je recommande aussi.
Eh bien, vous allez nous donner les adresses tout à l'heure parce que tout le monde adore le miel et surtout un miel qui vient de l'apiculteur, hein, pas les miels frelatés qu'on trouve un peu partout et qui ont perdu du goût, on va dire. Bien, alors, je vais vous demander, puis après nous écouterons une première pause musicale, mais pour nous mettre sur le chemin de l'orchidée, alors peut-être à Jean-Michel et puis vous compléterez Robert éventuellement, mais comment peut-on expliquer aujourd'hui, en 2023, cet engouement général et mondial pour les orchidées, Jean-Michel ?
Alors, je ne saurais pas expliquer. Il y a plusieurs aspects intéressants dans les orchidées. C'est un sujet passionnant. Il faut prévenir vos auditeurs, c'est même addictif. Donc, ils ont encore quelques minutes pour fuir.
Mais après, c'est fini. Alors, ils seront contaminés.
Au début, on disait c'est la rareté, c'est la beauté. En fait, pour moi, c'est pas ça du tout. C'est les modes de pollinisation. Même Darwin a dit que le sujet des orchidées était celui qui l'avait le plus intéressé dans sa carrière de chercheur.
Eh oui.
Et lui, qui l'intéressait, c'était les modes de pollinisation des orchidées.
Parce
on pourra en parler.
On en parlera si vous voulez. Mmh. Mais Darwin, bon, il était, et c'est donc le maître de la théorie de l'évolution.
Voilà.
Et il n'a pas regardé que les orchidées.
Oui.
Mais en tout cas, c'était donc.
Son sujet favori.
Ah oui, voilà. Ça je ne savais
pas. Il a écrit un livre sur la pollinisation des orchidées qui fait 300 pages.
Eh oui. Non, mais Darwin, c'était quand même quelqu'un. Hein, Alors, nous allons écouter Catherine. Qui va nous parler des plantes, évidemment, puisqu'on est au Jardin des Plantes.
Observer les plantes, c'est très instructif. Elles survivent les plantes en milieu agressif. Elles cherchent la lumière en se transformant. S'allège en s'amputant, puis se régénère. J'observe les plantes, c'est très instructif. Je suis comme une plante en milieu agressif. Je cherche la lumière en me transformant. M'allège en m'amputant. temps, puis me régénère. Observer les plantes, c'est très instructif. Souviens-toi, tu me l'as dit, j'y repense souvent depuis. Assis dans le jardin, je regarde le jasmin. Oui, je le vois bien, me voilà jasmin.
Nous venons donc d'écouter Catherine et sa belle voix dans Les Plantes, bien sûr, une jolie chanson voilà, qui fait aussi un petit peu réfléchir. Alors, on revient à nos orchidées, notre thème de ce matin, de ce soir. Qu'est-ce que je raconte? Alors, on va demander à Robert, peut-être, quand a commencé la folie des orchidées? Parce qu'on peut dire hein, que c'est devenu une folie. Donc, je pense qu'en Angleterre, et puis après on parlera un peu de la Chine et de la toute première découverte des orchidées, en tout du moins ce qu'on en sait, puisque ça remonte à des millénaires. Mais en tout cas, on est en Europe et on est en 1800.
Alors, c'est vrai que ça a commencé au début du 19e siècle.
Oui.
En fait, ce sont les nobles anglais qui se sont intéressés très fortement aux orchidées et qui ont commencé à faire des collections. Et comme ils avaient des moyens et que l'Angleterre dominait les mers à cette époque-là...
avec sa flotte,
et
oui.
Et voilà, et bien, en fait, ils envoyaient des chasseurs d'orchidées dans le monde entier.
Mais quand même, Robert, une petite question plus précise. La première fois qu'il y a eu cette fleur, c'est bien venu de quelque part.
Alors, les fleurs existaient déjà il y a longtemps. On connaissait même en Europe, je dirais au 15e siècle, on connaissait les orchidées en France, hein, par exemple. Hein, puisqu'il y a 135 espèces d'orchidées en France, ou 165.
Mais Jean-Michel, 165. 165, mais on n'est pas à une dizaine près, puis si ça se trouve, on va
en
découvrir.
Les Chinois connaissaient déjà les orchidées il y a 2000 ans, ils connaissaient les cymbidiums et ils aimaient entretenir ces fleurs. Mais l'engouement très très fort a commencé en Europe, à partir de l'Angleterre, avec des nobles qui avaient des moyens, qui avaient envie de construire des très grandes collections. Ce sont eux aussi qui ont eu l'idée de construire des grandes serres qui ont permis de pouvoir les conserver.
Alors vous allez me parler de Cavendish.
Voilà, Cavendish, c'était le premier. C'est le premier qui a envoyé des chasseurs d'orchidées en Inde.
Mais c'est fou de dire chasseur d'orchidées. Moi, c'est un terme qui me plaît pas, ça.
Eh ben, en fait, on dit chasseur, oui. En fait, le mot classique, c'est collecteur.
C'est mieux.
Ce sont des gens qui allaient collecter les plantes, qui les ramenaient en Europe. Oui. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on ramenait autant de plantes en Europe. C'est parce qu'on ne savait pas les multiplier. En fait, on a découvert... quand, si je ne me trompe pas, en 1913, la façon de semer les graines qui ont besoin d'un champignon pour pousser en symbiose.
Oui.
Et en fait, avant, il fallait aller collecter les orchidées à l'autre bout du monde et les rapporter. Et donc, Cavendish a été le premier qui a envoyé un collecteur en Inde. Ils sont allés dans le nord de l'Inde et il a rapporté une collection immense. Il a été le premier à avoir une superbe collection. Et en fait, derrière, eh bien, on a d'autres nobles sur ce modèle-là qui ont envoyé des collecteurs.
Oui, bah, on dit des chasseurs. On dit des
chasseurs d'orchidées à l'autre bout du monde. Et ils ont commencé à aller, par exemple, au Brésil.
Oui.
Par exemple, le Cattleya, cette fameuse fleur énorme qui est si belle avec des couleurs rouges, violacées, un label qui est immense. C'était une des premières orchidées qui est arrivée en Europe en 1819. Celle-ci, avec une superbe fleur, a fait envie à beaucoup d'autres. Hein. Et c'est à partir de ça que ça a commencé. Et on a commencé d'abord par l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Et puis ensuite, on est allé en Asie pour continuer de collecter. En fait, des orchidées, on en trouve dans une grande partie du monde. On n'en trouve pas au pôle Nord, on n'en trouve pas au pôle Sud.
Elles ont besoin de chaleur.
Elles n'ont pas besoin toutes de chaleur, puisqu'on trouve dans des zones, dans nos zones françaises où il gèle en hiver,
oui.
Les plantes sont au repos et elles...
Elles supportent finalement
elles
le gel.
Voilà.
D'accord.
Mais en Europe, on ne va avoir que des plantes terrestres. Alors que dans les pays tropicaux, oui. On va avoir des plantes terrestres et épiphytes. Épiphytes,
voilà.
Ça veut dire épis qui poussent sur des plantes.
Oui. Ça, c'est ça qui est extraordinaire, voilà. Et qui est très beau, je trouve. Vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Michel ?
Je pense que tu pourrais rajouter quelque chose à propos d'orchies sauvages et de la recherche des orchidées.
Oui, déjà sur la culture in vitro, on peut faire cocorico, c'est le français Noël Bernard qui a découvert la culture in vitro, comment faire germer des graines d'orchidées en dehors de la nature, dans des tubes à essai. C'est ça qui a permis la démocratisation des orchidées. Alors pour la découverte dans la nature, bah oui, on peut parler de la Fédération France Orchidée.
Oui.
Donc on fédère en fait 24 associations en France qui sont réparties sur tout le territoire métropolitain. Donc dans le Val d'Oise, il y en a une.
C'est ça que on veut entendre.
L'orchidée 95. Donc, ça fait l'orchidée 95.
Et
ils se réunissent à Saint-Prix.
Eh ben, c'est pas si loin,
Saint-Prix. Non. Et donc, alors c'est très convivial. Ce sont des réunions en général mensuelles,
oui.
Au cours desquelles y a une conférence. Par exemple, je peux vous faire à la découverte des orchidées de Madagascar, comme exemple.
Oui. Ça, c'est votre.
Robert va faire la pollinisation par les insectes.
D'accord.
Et puis les adhérents qui cultivent des orchidées, si elles sont en fleurs, ils les montrent aux autres. Ils expliquent comment ils les cultivent. Il y a des conseils de culture qui s'échangent. En général, ça se termine par une petite collation. Enfin, c'est très convivial.
On ne mange pas d'orchidées.
Voilà. Et puis, comme on est une fédération, si vous êtes inscrit à Orchidée 95, vous avez le droit d'aller aux sorties de nos associations qui sont en Languedoc, par exemple.
Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et donc, ces sorties, ce sont des randonnées à la découverte des orchidées qui poussent, des orchidées sauvages.
Voilà. Cette année, par exemple, au mois de juin, on va aller dans l'Oise, sur le Mont César. On va montrer aux gens des orchidées terrestres qui sont à côté de chez nous.
D'accord.
Et qui ne sont pas les moins passionnantes.
Mais oui.
Je vous parlais tout à l'heure de la pollinisation des orchidées.
Oui.
On a en Europe et dans la région parisienne un genre qui s'appelle les ophrys et qui sont des leurres sexuelles pour les abeilles. Donc elles attirent, elles ont un pétale différencié des autres qui ressemble à une femelle d'abeille,
oui.
Qui non seulement ressemble, mais qui a aussi l'odeur des phéromones sexuelles, des
phéromones. Ingéniosité, incroyable. Oui.
Et donc, ça, c'est à côté de chez nous. Et on peut l'observer. On peut voir ces mâles d'abeilles qui sont complètement désorientés par cette fleur, qui pensent que c'est une vraie femelle.
Oui.
Et qui essaye ce qu'on appelle scientifiquement une pseudo-copulation.
Eh oui.
Alors le but pour l'orchidée, c'est de, pendant ce moment-là, de lui coller sur la tête le pollen.
Bon.
Que le mâle va aller porter sur une orchidée de la même espèce. Donc c'est une façon d'être pollinisé extrêmement efficace.
Eh oui.
Par opposition au saule, qui va balancer son pollen dans le vent, et puis ça va partir aléatoirement partout, en espérant que ça tombe sur un autre saule.
Là, mais c'est pas sûr.
C'est pas sûr. En général, des fois, ça tombe dans les bronches. C'est responsable du rhume des foins.
Merci.
Donc, voilà. Donc, l'orchidée, elle est beaucoup plus efficace. Elle garantit que, en fait, un insecte va venir prendre son pollen et le porter sur une fleur de la même espèce. Donc, ça, c'est vraiment l'intelligence végétale.
Exactement. Hein. Et ça, c'est admirable, franchement.
Voilà.
Très bien. Alors, on a vu un peu où poussaient les orchidées dans le monde. Est-ce qu'il y a des endroits, Robert, où elles n'existent pas ? Vous nous avez parlé des deux pôles. Est-ce qu'il y a d'autres endroits ?
Oui, il y a un endroit où il y a des plantes qui poussent, mais par exemple dans les mers. Dans les mers, il n'y a pas d'orchidées.
D'accord.
Il n'y a pas de plantes qui poussent dans les mers.
Oui.
D'orchidées qui poussent dans les mers.
Alors qu'il y a des algues ou des tas de plantes ou sous-marines, c'est vrai.
Donc ça veut dire que vous pouvez aller dans des pays au nord, en Suède, vous trouverez des orchidées. Bon, moins nombreuses, mais donc.
Et donc des espèces particulières, par exemple en Suède ou.
Ce sera des espèces terrestres.
Oui, des espèces terrestres, évidemment.
Ils ne sont pas trop exigeantes.
Oui.
Voilà, il n'y a pas de plantes sous-marines, il n'y a pas d'orchidées sous-marines, il y a des orchidées souterraines en Australie.
Ah oui.
Qui ne vivent que sous terre.
Et qui n'ont pas de lumière, du coup.
Qui ne voient pas la lumière, en fait, qui sont parasites de racines ou qui échangent avec des champignons.
Oui.
Et pour se reproduire, elles ont quand même des fleurs, et ce sont les fleurs qui affleurent à la surface, qui s'épanouissent en surface. Voilà.
Et du coup, ce sont des grottes,
Elles sont sous la terre.
Oui.
Et elles ne sortent jamais, sauf elles sortent une fleur pour être pollinisées par des mouches, par exemple. Voilà.
Ah, d'accord. Donc,
et alors, évidemment, ces orchidées sont très rares. On les trouve presque jamais parce qu'il faut soit faire des trous ou alors marcher à quatre pattes pendant des heures.
Donc, il faut vraiment avoir sa loupe pour les découvrir. Oui, oui. Hein.
Mais il y a trois espèces connues.
Oui, et du coup, quel est l'intérêt pour ces orchidées? Est-ce que c'est pour se préserver de la gent humaine qu'elles se mettent
alors
sous terre?
Alors, elles n'ont aucun risque d'être broutées par les kangourous.
Déjà.
Voilà, et parce qu'elles échangent avec des racines, avec des champignons. Il y a beaucoup d'échanges entre les orchidées et toutes les plantes en général et les champignons. Donc, elles ont trouvé une niche écologique, en fait, créneau.
Absolument. Ben voilà, comme quoi l'intelligence des plantes, elle est bien là. Alors, pour Robert, et c'est très subjectif comme question, enfin quand même, la plus rare des orchidées, celle qu'on a tellement de mal à dénicher.
Je ne saurais pas répondre la plus rare, parce qu'en fait, une orchidée qui est très très rare à un instant, quand on la découvre, immédiatement, on est tellement content de la découvrir, on a trouvé récemment des Paphiopedilum vraiment extraordinaires, immédiatement, comme on a maintenant la culture in vitro, on est capable de la multiplier, et immédiatement, cette plante qui est très très rare, dans la nature, va devenir, pour les collectionneurs, une plante qui sera plus disponible, puisqu'on va la multiplier par milliers, et on va réussir à la disperser dans le monde. Malheureusement, si elle est rare, c'est souvent parce qu'elle est dans des zones qui sont relativement inaccessible. On va trouver ça sur des plans de montagne très difficiles d'accès dans des zones tropicales où personne n'a pu les détruire, voyez.
On n'a pas pu
construire, on n'a pas fait quoi que ce soit, on n'a pas pu cultiver à ces endroits-là.
Donc elles ont résisté.
Elles ont résisté à
l'appât humain et finalement, elles ne vont plus devenir si rares que ça puisqu'on va pouvoir...
Elles vont être accessibles à la plupart des gens.
C'est un petit peu dommage parce que la rareté des choses fait un peu leur valeur à mes yeux.
Alors moi j'ai envie de dire les orchidées les plus rares, c'est celles qu'on n'a pas encore découvertes.
Oui, vous avez raison.
Absolument.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans dans le monde, on découvre encore 300 ou 400 nouvelles espèces d'orchidées.
Du coup, quelle est la différence entre une orchidée qu'on a découverte et une orchidée qu'on n'a pas encore découverte?
C'est tout le travail du botaniste, c'est de s'assurer que quelque chose qu'on voit est nouveau et n'a pas été décrit ailleurs.
C'est
n'existe pas dans un herbier. C'est compliqué. Moi, je fais ça à Madagascar, par exemple. J'explore Madagascar à la recherche
de
nouvelles espèces. Oui.
Alors là, vraiment...
Et c'est en fait assez courant, pratiquement à chaque voyage, on trouve une espèce qui n'a jamais été vue avant.
Hein. Oh là là.
Et c'est là que cette passion devient vraiment intéressante.
Ah ben ça, je comprends. Alors là, aller à la découverte de ce qui n'a pas encore été vu. Ah oui.
Mais des orchidées nouvelles, on peut aussi en découvrir. C'est ce que je fais en ce moment en travaillant dans l'herbier du muséum. Parce que dans l'herbier du muséum, il y a 10 millions d'échantillons. Je suis en train de faire la révision d'un genre d'orchidées qui s'appelle les Bentamia, d'orchidées de Madagascar.
Oui.
Et dans l'herbier du muséum, il y a des nouvelles espèces qui attendent qu'on les décrive et qu'on se rende compte qu'elles sont nouvelles.
Ah, elles n'ont pas encore été connues du monde entier.
Alors évidemment, les Bentamia, vous savez, c'est des fleurs de quelques millimètres, donc ça n'intéresse pas les fleuristes.
Hein. Oui, c'est ça, ça n'est pas assez visible.
Voilà.
Mais ça intéresse le passionné que vous êtes, ça je le vois bien. Hein. Alors, on a parlé de la plus rare, donc on a vu qu'il n'y avait pas de plus rare finalement. La plus belle, ça c'est absolument subjectif, mais quand même, les orchidées, ce sont de belles fleurs. Quelle est, à votre avis, Robert, ou pour vous, la plus belle?
Moi, j'aime beaucoup l'Angraecum sesquipédalée, c'est justement une fleur qu'on trouve à Madagascar.
Décrivez-la, s'il vous plaît.
C'est une fleur qui est blanche, qui est d'une taille, je dirais, 10 cm de large sur 15 cm de haut, et qui a quelque chose de très particulier, qui peut avoir un éperon qui fait entre 25 et 30 cm. Et justement, cette plante a quelque chose de très particulier parce qu'elle a été découverte en 1798, donc c'est-à-dire il y a très très longtemps. Darwin avait prédit qu'il y avait un papillon qui serait capable d'aller féconder, d'aller jusque dans le fond de l'éperon. Vous imaginez, 27 cm de profondeur. Et il a fallu attendre 1903 pour découvrir un papillon, un sphinx, qui est capable de puiser ce nectar. Donc, qui a une langue qui est enroulée et qui, quand il est devant l'orchidée, va déplier cette trompe pour pouvoir plonger dans l'éperon.
C'est un caméléon, finalement, ce sphinx.
C'est un sphinx.
Oui. Ça ressemble un peu, non ? Je sais pas, moi, j'imagine ça, une langue.
Sa langue, oui, un peu comme ça.
Bon.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a fallu attendre 1997, c'est-à-dire quand même 200 ans après la découverte de l'orchidée, pour voir, pour prendre en photo le sphinx en train de féconder l'orchidée. Et puis, on l'a filmé pour la première fois en 2004.
D'accord, oui, bon, ça, du coup, c'est...
Donc, vous imaginez 206 ans entre le moment où on a découvert l'orchidée et le moment où on était capable de filmer la fécondation par l'insecte.
Et oui.
C'est une fleur qui est superbe. Il y en avait d'ailleurs à l'exposition Mille et une orchidées qui a eu lieu récemment.
Oui. Et alors, pour vous, Jean-Michel ? Moi,
les orchidées préférées. Alors, j'aime bien les vanilles, parce que la vanille, il n'y a pas que celle qui sert à faire des gâteaux. Hein. Mm-hmm. Il y a une centaine d'espèces de vanille dans le monde. Il y en a à Madagascar. Et effectivement, c'est des grandes fleurs magnifiques. Alors, je peux vous raconter une histoire, puisque je suis donc vice-président de l'Association des Amis de la Forêt d'Ambodiriana à Manampana.
Justement, c'est
voilà,
le moment.
Qui est une forêt de 240 hectares. Sur la côte est de Madagascar. Et on a une convention de gestion avec l'État malgache pour nous occuper de cette forêt. Et on finance en fait du gardiennage, des gardes qui empêchent que les arbres soient coupés.
Oui.
Et dans cette forêt, on a repéré une liane d'orchidées à fil. Donc en gros, qu'est-ce que c'est qu'une liane d'orchidées à fil ? C'est un tuyau vert. Hein.
Oui.
Il n'y a même pas de feuilles. Mais on avait repéré que c'était une vanille. Et on ne l'a jamais vue fleurir pendant 15 ans. Et elle a fleuri récemment. Et elle fleurit très haut dans la canopée, donc c'était difficile à voir.
C'est pour ça que vous n'aviez pas réussi
à la
voir.
Voilà, en fait, on est allé la repérer avec un drone.
Oh là là, voilà. Et alors, à combien de mètres, dites-moi ?
Oh, c'est 10 mètres.
Donc il faut avoir une belle échelle.
C'est pour ça qu'on ne les voyait pas.
Je comprends.
Et on s'est aperçu que c'était une espèce nouvelle. Et non seulement nouvelle, mais que c'était la plus grosse fleur d'orchidée de Madagascar.
Ah.
Et magnifique, une grande, grande fleur blanche. Mais ça montre quand même que quand on regarde la Terre avec le pouvoir de résolution d'un naturaliste, on s'aperçoit que la Terre est inexplorée. Mmh. En 2022, on peut découvrir la plus grande fleur d'orchidée de Madagascar.
Eh oui.
Ça donne une idée.
Alors que c'est la plus grande.
Voilà.
Donc, c'est pas une petite minuscule là qu'on aurait peut-être pu ne pas voir.
Là, c'est pas des millimètres.
Exactement. Hein. Et du coup, vous me dites, elle fait combien pour qu'on se rende compte
J'ai en tête une photo devant son découvreur. C'est aussi grand que sa tête. Ça fait, les pièces florales font 9-10 cm.
Ah,
donc
oui.
Ça fait 20 cm d'envergure.
Ah oui, voilà. Donc visage et la fleur de l'orchidée.
Voilà.
Ah, donc c'est magnifique ça. Voilà ce qu'il faut offrir, hein, c'est vrai. Ça, c'est un joli cadeau. Bon, alors, on revient à vous, Robert. En France, où est-ce qu'on trouve des orchidées ?
Ah ben, des orchidées, on en trouve dans toute la France,
dans
tous les départements.
Voilà.
Il suffit de savoir où elles sont et c'est pour ça qu'on a des associations, parce que ces associations permettent de prendre des groupes, de les emmener sur place. Alors, les gens vont prendre des photos, mais respecter les orchidées, ils vont pas les détruire. Mais donc, on va se déplacer, on va aller les voir. C'est une des parties des activités de nos associations, de faire des sorties dans l'année pour aller voir les orchidées.
Et
il y en a dans tous les départements.
Vous avez beaucoup de personnes qui sont intéressées par les orchidées.
On est plus de 1900 en France.
C'est ça. Bon, il y a encore de la place pour les auditeurs et auditrices.
On est très accueillants.
Voilà, qui vont devenir accro grâce à cette émission.
Ils trouvent sur Internet france-orchidée.org et il n'y a pas de problème. Et là, ils trouveront la liste de toutes nos associations.
Très bien. Alors, une petite question de la néophyte que je suis. Comment soigner son orchidée ? On a une petite orchidée ou une belle, on est chez soi. Est-ce qu'elle reste dans un pot ? Est-ce qu'on va la planter dans la terre ? Est-ce qu'elle sera dans le jardin ou sur une terrasse ? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un cadeau magnifique d'une orchidée blanche qui est restée fleurie pendant 6 mois et puis qui a refleuri 2 ou 3 mois plus tard pendant 6 mois à nouveau. Est-ce que j'ai eu de la chance ?
Alors, vous avez peut-être, sans le faire exprès, mis votre orchidée dans les meilleures conditions. L'orchidée dont vous parlez, c'est le Phalaenopsis, c'est ce qu'on appelle l'orchidée papillon. C'est l'orchidée à la mode actuellement. Oui. Pourquoi elle est à la mode? Ben parce qu'elle est très résistante, elle va fleurir très très longtemps. Et puis, elle est bien adaptée à la chaleur des appartements ou des maisons actuellement.
C'est ça.
Donc, c'est l'orchidée à la mode. On a eu d'autres orchidées à la mode avant, comme les Cymbidium ou les Cattleya, mais c'est celle-ci. Alors, pour dire comment il faut la soigner, ça ne peut pas se dire en 30 secondes, mais les points importants, c'est qu'il faut que votre orchidée soit à moins d'un mètre de la fenêtre, pour qu'elle ait suffisamment de lumière. Si elle n'a pas suffisamment de lumière, elle ne va pas refleurir.
Oui.
Attention à qu'elle n'y ait pas le soleil dessus. C'est bien si c'est au côté sud, il faut qu'il y ait un voilage pour la protéger. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est qu'il faut lui apporter de l'eau. Donc il faut lui apporter de l'eau au moins une fois par semaine.
C'est ça, pas trop souvent.
On peut le faire soit par le dessus, soit par trempage. Mm-hmm. Mais la grande chose à faire, auquel il faut faire attention quand on arrose une orchidée, c'est de ne pas l'arroser avec l'eau du robinet qui vient juste de sortir, qui est une température froide.
Ah.
Imaginez-vous, si je vous prends et que je vous mets dans un bain froid...
Oui, je pensais à la douche, effectivement.
Vous n'allez pas être à l'aise.
C'est pas
pour l'orchidée, c'est pareil.
Mmh.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on, si on utilise de l'eau de robinet, on fait couler l'eau dans une bouteille, on attend quelques heures que l'eau vienne à la température, et après, on peut arroser.
Ah, idéalement, c'est un bon conseil.
Idéalement, ce serait mieux d'arroser avec de l'eau de pluie.
D'accord.
Mais bon... Quand on n'a pas, on fait avec ce qu'on a.
Oui, parce qu'il ne pleut pas non plus tous les jours. Hein.
Et puis, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais j'ai une orchidée, j'en ai une Phalaenopsis, et ça fait plusieurs années, puis elle fleurit bien tous les ans. » Mais je lui dis « Est-ce que vous avez remarqué que les fleurs deviennent de plus en plus petites ?» Ah oui, c'est vrai, elles deviennent de plus en plus petites. Mais oui, parce qu'il faut nourrir l'orchidée, donc il faut apporter de l'engrais.
D'accord.
Donc vous voyez, il y a tout, et ça, oui, c'est tout un savoir.
Oui.
Moi, je suis le président d'Orchidée 78, mm-hmm, donc du département des Yvelines, et dans notre association, on apprend aux gens comment soigner les plantes, comment les faire refleurir, et pour les avoir de plus en plus belles.
Exactement. Ah. Ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. Pour terminer... nous allons quand même nous donner rendez-vous au Jardin des Plantes en 2024, aux Grandes Serres, pour la nouvelle expo 1001 Orchidées. Elle s'appellera toujours 1001
toujours
Orchidées.
Toujours 1001 Orchidées.
D'accord,
depuis
c'est un joli
10 ans.
Titre.
Oui, oui.
Et donc, est-ce qu'il y aura quelques différences, Jean-Michel, par rapport à 2023 ou pas?
Alors, tous les ans, on se réunit...
Ah, c'est Robert.
Ah, excusez-moi. tous les ans, on se réunit à l'automne et on décide comment on va organiser pour l'année suivante. Donc, c'est un petit peu tôt actuellement.
D'accord.
Est encore,
Mais il y aura des nouveautés par rapport à
Il y aura des
2023.
Nouveautés. On a quelques idées. Je ne vais pas les dévoiler aujourd'hui parce que ce n'est pas encore décidé. Mais on a des idées pour toujours rendre l'exposition de plus en plus intéressante.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui viennent visiter cette exposition.
Ah bah absolument. C'est vraiment magnifique. Hein. On est plongé dans un monde... qui n'est pas le monde qu'on voit dans le métro, on va dire.
Et en tout cas, il y aura un stand de la Fédération France Orchidée, donc vous pouvez passer sur notre stand.
Voilà.
Et rencontrer nos bénévoles, parce que nous ne sommes que des bénévoles hein, dans
cette
association,
oui.
Bien sûr.
Il faut le dire. Il y en a d'autres bénévoles dans la vie. Alors, bon, j'avais plein d'autres questions à vous poser, mais voilà, comme le temps est passé, bah, il me reste à vous remercier mille fois vraiment pour nous avoir éclairé sur
merci,
ce monde
on reviendra
de
avec plaisir.
Ah, bah, avec grand plaisir, franchement. Donc,
merci.
Robert Guichard, Jean-Michel Hervouet, merci d'être venu jusqu'à nous et d'avoir évoqué les orchidées. C'est un monde tellement merveilleux. Et puis, vous êtes passionné, ça s'est senti.
Un grand merci. Plaisir. Merci beaucoup.
Merci.
Chasse les oiseaux qui sous l'eau ne sait pas respirer. Mais qui suis-je donc pour me croire le plus fort, pour me croire tout permis, me donner le droit de vie et de mort? Que dire encore?
Je suis le moins humain des animaux.
Je suis le pire.
Je pense à rien qu'à sauver ma peau.
Pour ainsi dire,
le plus sauvage des fours en cage. Je suis de loin le moins beau.
Qui invente la bombe? Qui se moque du monde? Pour
Donc nous venons d'écouter Calogero dans Drôle d'animal, une chanson qui nous fait un petit peu réfléchir aussi. Et pour terminer notre visite au Jardin des Plantes, donc voilà un entretien que m'a accordé Cyril Roguet, le directeur du département des galeries, en charge du grand site du Jardin des Plantes. Je peux vous dire que c'est un monsieur qui a quelques responsabilités.
Bonjour Cyril Roguet.
Bonjour.
Alors, je vous prends vraiment à l'improviste. Vous êtes le directeur des galeries,
oui.
des galeries du Jardin des Plantes. Et vous me recevez comme ça, je vous en remercie mille fois, pour un interview tout à fait spontané sur les galeries que vous dirigez. Est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps, Cyril Roguet, quel est votre rôle en tant que directeur des galeries, et elles sont nombreuses, du Jardin des Plantes?
Alors, en fait, je suis non seulement directeur des galeries, mais aussi en fait de tous les services que le public peut trouver dans l'enceinte du Jardin des Plantes. Donc ça recoupe aussi à la fois donc la conception, la production des expositions permanentes et temporaires dans les galeries, mais aussi aux grandes serres, par exemple. En ce moment, il y a mille et une orchidées.
Oui.
Mais aussi les services d'accueil, de caisse, de billetterie, les boutiques.
Oh là là.
La médiation, ce qu'on appelle, c'est les animateurs qui sont déployés sur l'ensemble du site du Jardin des Plantes et la programmation de l'action culturelle, en fait, les conférences, les films qui sont aussi proposés. Donc c'est beaucoup plus vaste que ça.
Alors, oui.
C'est vrai que les galeries du Muséum National d'Histoire Naturelle sur le site du Jardin des Plantes, c'est un peu particulier parce que si on compare avec d'autres muséums à travers le monde, je sais pas, je pense au British Museum, aux États-Unis, à la Smithsonian, en fait, c'est un seul et même bâtiment qui accueille une diversité des collections qui ont trait à l'histoire naturelle. Pour des raisons historiques, je pourrais les expliciter, sur le site du Jardin des Plantes, ça s'est développé d'une manière tout à fait différente. C'est-à-dire que on a créé à chaque fois une nouvelle galerie pour une nouvelle matière.
Et ça, c'était chronologique.
C'est ça, ça s'est fait de manière chronologique.
D'accord.
C'est en fait au début, effectivement, sur le site du Jardin des Plantes en 1645, en fait, c'était le jardin médicinal du roi.
Oui.
Et donc, déjà à l'époque, vous aviez une concentration, ce qu'on appellerait désormais scientifique, enfin à l'époque, on les appelait aussi scientifiques quand même,
de plantes.
De médecins, et c'était, voilà. Et cette concentration-là de savoir et de compétences en sciences,
oui.
En fait, a continué à se développer, ce jusqu'à la Révolution française, et en 1793, c'est à ce moment-là où à la fois les chercheurs qui étaient présents, les collections aussi qui ont pu être accumulées au cours des années, ont été réunies dans un ensemble qu'on appelle muséum. C'est le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et à ce moment-là, il n'y avait pas forcément tous les bâtiments qu'on connaît actuellement. Le jardin en tant que tel, oui,
oui.
Mais pas forcément les autres bâtiments. Les autres bâtiments sont arrivés au fur et à mesure. Alors, il y a eu, là actuellement, on est à la Grande Galerie d'Évolution, donc c'était l'ancienne galerie de zoologie. Donc là, on était consacré effectivement à la classification des vertébrés principalement,
oui.
Et présenter des collections d'animaux naturalisés. À l'époque, on disait empaillé parce que l'âme qui formait en fait l'animal qui était présenté était en paille, tout simplement. Là, désormais, c'est pas de la paille, hein, c'est souvent des sculptures en polystyrène.
Oui, d'ailleurs, on voit comment on l'explique très bien.
Ensuite, il y a eu la création en fait en 1835 de la galerie de minéralogie,
oui.
Qui est juste à côté.
Et cette date, elle a correspondu.
C'est intéressant parce que en fait, on est sous Louis-Philippe, donc la deuxième restauration, et c'est la première fois au monde même où on a eu l'idée d'aller créer un bâtiment qui soit spécifiquement dédié à la présentation de collections. Parce qu'auparavant, quand les musées existaient, mais souvent ils étaient dans des anciens palais royaux, mais partout en Europe principalement. Là, pour la première fois, on dit tiens, je vais construire un bâtiment qui sera dévolu exclusivement à la présentation d'une exposition pour le visiteur. Et cette galerie sert aussi de lieu de conservation des collections de minéraux et de géologie.
Elle est magnifique, hein, d'ailleurs, oui. Cette galerie, il faut bien reconnaître. Et je pense que c'est le fait aussi d'avoir peut-être trouvé des météorites,
C'est l'enregistrement des collections.
Des cristaux magnifiques. Alors,
c'est là où j'allais en venir. Oui. Si je reprends en 1793, oui. En fait, l'idée, c'est que les collections qui avant appartenaient en fait au roi soient désormais dévolues aux citoyens. Mmh. Et le Muséum, à ce moment-là, devient un lieu de recherche, de conservation de collections. Bon, il faut aussi aller chercher les collections,
mais oui.
Et ensuite on les conserve, on les étudie et on redonne ensuite ce savoir auquel on a pu parvenir, enfin les scientifiques ont pu parvenir, auprès du citoyen.
Donc voilà. Il y a c'est vraiment ouverture cette idée-là. Au voilà. public, et du coup ça a dû susciter énormément de vocations.
Et c'est, alors, non seulement de vocations, mais en fait d'imitation. Parce que ce modèle-là, qui a été créé vraiment en France, par la suite a justement été développé partout dans le monde. À l'exclusion, comme je vous disais, que les collections ne sont pas disséminées dans différents bâtiments, mais en un seul.
Exactement.
Et c'est ce modèle-là qu'on retrouve ensuite partout. Alors, simplement, c'est qu'en France, et jusqu'alors, c'est encore le cas, pour ce qui est à Paris, on a conservé, en fait, la dimension de recherche. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres muséums, même en France. Si vous allez au muséum, je sais pas moi, de Bordeaux, il peut y avoir des équipes de recherche ou de Toulouse associées. Mais ils ne sont pas personnels du muséum.
C'est pas une des vocations.
Les chercheurs du muséum, la vocation première du muséum, en fait, c'est la recherche.
Oui.
Et les deux tiers des effectifs sont consacrés à l'activité de recherche. Il y a seulement un tiers qui est consacré, environ 300 personnes, à la mission de diffusion, de création d'expositions, d'accueil des publics, à la fois sur le site donc, du Jardin des Plantes, il ne faut pas oublier le Musée de l'Homme,
au Trocadéro,
ou le Parc Zoologique de Paris.
Vous travaillez en parallèle, d'ailleurs.
Ah, oui, c'est des collègues que je vois souvent.
C'est ça.
C'est ça l'idée, c'est qu'on puisse avoir une osmose dans nos pratiques.
Oui. Alors, on continue avec la visite, si vous voulez bien, des galeries.
Alors, ensuite, on avait la galerie de botanique qui, elle, conserve en vérité l'herbier. C'est le troisième herbier mondial.
C'est ça.
En quantité, donc c'est énorme.
Vous aurez une orchidée, alors, je le sais.
Ah ben, c'est fermé, il est accessible, bien sûr, au public dans une activité de recherche. Il n'est pas présenté comme ça directement.
Non, mais là, je vous parle président des orchidées de France. Et donc, il va venir ajouter à l'herbier. Donc
voilà,
c'est une petite indiscrétion entre nous.
Et ensuite, dans le prolongement, on a encore une autre galerie qui est la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée.
Alors là, on est... ça, c'est magnifique, franchement.
Architecture, c'est comme pour celle de la Grande Galerie d'Évolution. Donc, on est plutôt vers les années 1889-91. C'est une architecture effectivement qui utilise beaucoup le verre et le fer.
Oui.
Une verrière, de fer, de style Eiffel en fait. Oui,
c'est ça.
Ça. Et qui est magnifique effectivement.
Ah, oui. Et puis qui est riche, une richesse.
Un premier étage, un rez-de-chaussée consacré en fait à l'anatomie comparée des animaux modernes, actuels. Et puis à l'étage au-dessus, en fait, leurs ancêtres d'une certaine manière, consacrés à la paléontologie. Ensuite, il ne faut pas oublier dans l'enceinte du Jardin des Plantes, la ménagerie elle-même, qui est en fait le plus ancien zoo au monde.
Ah ben je ne savais pas.
Ah ben, si.
Et donc il y a des espèces...
Elle a beaucoup évolué la ménagerie. Oui. Les bâtiments en eux-mêmes, ça reste quand même à la fois un jardin et une promenade. Il y a les anciennes fabriques qui datent du 18e ou certaines du 19e siècle. Les animaux qu'on y présente sont avant tout des espèces qui sont en voie d'extinction.
Oui. Il y a les chevaux de Préjvalski.
Voilà, par exemple.
Bon, voilà, il y en a quelques-uns.
Mais on fait en sorte de présenter des animaux qui soient proportionnés aux enclos pour leur bien-être, voire même à agrandir les enclos. Mmh. C'est ce qu'on fait souvent quand il y a deux enclos. En fait, on n'en fait plus qu'un. On ne va pas y retrouver des girafes ou des... À une époque, il y avait bien le fameux éléphant, puisqu'il a été mangé en 1871 pendant la Commune de Paris. Mais...
Par qui ?
Par les Parisiens.
Mais je ne savais pas. Si. Pourtant, la Commune de Paris, c'est une période extraordinaire.
Si. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Mais alors, bref, donc la ménagerie a aussi...
C'est une anecdote.
La ménagerie a aussi sa propre histoire.
Oui.
Et puis, le jardin en tant que tel, bien sûr. Oui. Puisque dans le jardin dit des plantes, vous allez retrouver différents jardins. Par exemple, le jardin alpin, qui reconstitue en fait
le milieu,
la flore et le milieu que vous pouvez trouver en montagne, ce qui est assez surprenant quand vous êtes au cœur de Paris. Vous avez le jardin de l'école de botanique où là on va vous expliquer en fait la classification des plantes tout bonnement.
Oui.
Donc vous avez différents jardins disséminés comme ça, et on trouve aussi le labyrinthe qui est sur un monticule surmontée en fait de la dite de la gloriette de Buffon, qui a été là aussi, mais là c'est plus ancien, hein, donc on est à fin du XVIIIe siècle, qui a été le premier bâtiment. Enfin, la première structure construite en métal, justement sous forme de rivets qu'on pouvait utiliser par la suite, près d'un siècle et demi plus tard, par Gustave Eiffel, tout en haut du monticule. Et tout ça, vous l'avez dans le jardin, en fait.
Oui. Et le jardin, en fait, il présente aussi, par ordre chronologique, l'arrivée des plantes sur Terre.
Oui, alors ça, c'est au début, sur le... Oui, tout à fait. À l'entrée, côté... Valhubert, côté Austerlitz,
c'est ça.
Vous avez tout un carré qui présente effectivement l'histoire des plantes en tant que telles, en fait.
Voilà. Donc c'est...
Non, c'est très riche.
Voilà. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Je suis venue une première fois visiter en me disant j'aurai toute la journée et je n'ai pas du tout fini.
Non, vous ne pouvez pas.
Je suis revenue une deuxième fois et même c'était un peu juste. Je crois qu'il faut y consacrer 3-4 jours.
Oui, en fait, je pense qu'en une journée, vous pouvez faire et le jardin et une des galeries ou la galerie de paléontologie, pardon. Mais pas la totalité.
Exactement.
C'est impossible. Bon. Alors ensuite, effectivement, c'est un lieu qui, au cumulé de l'ensemble des galeries, qui accueille près de 1,9 million de visiteurs par an.
Ah, mais je ne savais pas.
Ce qui est énorme. Et ce qui fait qu'au cumulé même avec les visiteurs au Musée de l'Homme ou au Parc Zoologique de Paris, en fait, le muséum se place au quatrième rang national en nombre de en fréquentation et en accueil de visiteurs.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tout public. Parce qu'on voit des enfants, des adolescents, les lycéens,
bien
sûr.
Avec d'autres lieux. Parce que c'est un lieu de culture scientifique, Beaux-Arts en tant que tel, en fait, c'est vraiment fréquenté par des familles. C'est des familles entières qui viennent, des enfants accompagnés, donc on essaie de mettre ça en valeur. Et puis aussi, d'abord, il y a un intérêt évident pour la biodiversité et la sensibilisation aux
questions d'érosion. Et de plus en plus, j'imagine.
Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'actuellement, c'est plutôt, c'est vraiment depuis plusieurs années, en voie exponentielle, le nombre de visiteurs. Et cette sensibilité-là fait que, en fait, le visiteur, quand il franchit nos portes dans les galeries ou autres lieux, il n'a pas cette appréhension parfois. Pourrait avoir lorsqu'il va dans un musée dit de Beaux-Arts.
Oui.
Et il y a au fond une. Ce sont des familles et une certaine familiarité. Mm-hmm. Voilà. C'est
abordable.
Oui, c'est ça,
c'est
exactement.
Ça. Ah, oui,
c'est
tout
ça. Tout à fait.
Et bien sûr, vous avez les étudiants, vous avez ceux qui vont venir.
Je ne l'ai pas dit, mais donc le muséum, c'est à la fois donc de la recherche, la conservation des collections. Parce que au fond, c'est une forme d'encyclopédie de tout ce qui peut. Ce qui existe et qui a pu exister de par le passé.
Oui, c'est le vivant.
Dans l'univers, parce que les météorites, elles viennent quand même.
Et puis, le vivant et le non-vivant.
Oui, c'est ça.
Tout à fait, oui.
Et c'est aussi effectivement un lieu d'enseignement puisque on y délivre des diplômes universitaires de master, en fait c'est une petite université, il y a 200 étudiants par an. Et un lieu aussi d'expertise là au service des collectivités du gouvernement, de l'État sur les questions qui touchent à la biodiversité.
Et une dernière question, parce que vous avez été vraiment gentil de me recevoir comme ça à brûle-pourpoint, mais les étudiants qui viennent passer un master, ils vont se consacrer à quel genre de métier? Quelle est leur vocation et quel est leur objectif?
Non.
C'est la recherche.
Ah oui.
C'est pour ça qu'il y en a si peu.
Oui, bien sûr, c'est vraiment la recherche. Alors, il y a aussi un master dit de muséologie.
Oui.
Donc, ils sont là plus près au métier justement que nous exerçons dans ma direction, de conception, production, d'exposition. Donc là, il s'agit d'aller construire des parcours de visite, créer une exposition, en fait.
Alors justement, pour la dernière question, parce que j'en ai toujours une après la dernière, moi. Est-ce que vous pouvez nous parler des futures expositions?
Oui. Alors, d'autant qu'il y a des... pour bientôt.
Oui.
Aujourd'hui, on est le 3 mars. L'exposition prochaine à la Grande Galerie de l'Évolution qui ouvre, c'est le 23 mars, dans 20 jours. Et c'est une grande exposition consacrée aux félins. Alors, à la fois, les félins, 48 espèces, en vérité, une très grande diversité, pas forcément toutes connues du public, qui sont toutes présentées les unes les autres, et les spécificités mêmes qui sont liées à cette espèce. Et une dernière partie qui présentera, bien sûr, les relations à la fois proches, de fascination entre les hommes et ces fameux félins.
Oui.
Ça va du lion, bien évidemment, mais mais enfin la panthère, mais aussi le chat.
Tout simplement.
Oui, simplement. Oui, oui. Donc voilà, ça sera quand même un panorama très large sur,
sur presque exhaustif sur, sur les félins. Et puis, est-ce que vous pouvez, pour la, le dernier mot, nous parler de l'exposition Pablo Picasso
Alors, je ne le ferai pas, puisque en fait, ce sont mes collègues du Musée de l'Homme. Donc, moi, je ne suis quand même pas au Musée de l'Homme.
D'accord. Donc, Picasso et l'art rupestre,
ça, c'est au Musée de l'Homme.
Très bien. Et ici, nous sommes au Jardin des Plantes.
C'est-à-dire qu'en fait, au Musée de l'Homme, ce sont toutes les recherches et collections consacrées à l'être humain en tant que tel. Bon, jamais coupé, bien sûr, de son environnement.
C'est ça.
Puisque, au fond, au Muséum, on étudie toutes les espèces possibles et inimaginables, dont l'être humain.
Oui, voilà. Bien sûr.
Mais on ne le place pas en haut de
voilà. Chair. D'ailleurs, c'est fini, ça.
Non,
il y a eu une période où l'homme dominait tout.
Non.
Et aujourd'hui, le respect de tous.
Et il fait partie d'un domaine d'études, au même titre que les félins, par exemple.
D'accord. Très bien. Cyril Roguet, je vous remercie mille fois. C'était passionnant, c'était bref, concis, mais je crois qu'on a des réponses à tout ce qu'on peut se demander avant de venir visiter le Jardin des Plantes.
On y attend avec impatience lors de la prochaine exposition, fin mars.
Sur les félins. Merci beaucoup.
Merci.
Alors, je n'ai pas eu le temps de faire un petit détour auprès des mini-monstres. C'est une exposition qui dure jusqu'au 23 avril, toujours au Jardin des Plantes, où on découvre des petites bêtes qu'en principe on n'aime pas beaucoup, mais qui ont quand même des facultés étonnantes. Le pou, la mouche, la tique, le moustique, la puce, la punaise de lit, l'acarien. C'est pour les enfants, c'est pour les adultes, elle est passionnante, mais allez-y, voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux de se rendre sur place plutôt que je vous dise ce que j'y ai vu. J'y ai été passionnée, moi aussi. Eh bien, il me reste à vous donner rendez-vous dans un mois. Nous irons nous promener au château des Coins et nous irons y découvrir une nouvelle exposition. D'ici là, profitons du moment présent, embellissons notre vie et celle de ceux que nous aimons. À bientôt.
IDFM en DAB+, sur toute l'île de France. Le restaurant L'Aérodrome vous accueille du mardi midi au dimanche midi et le vendredi et samedi soir avec soirée à thème et soirée dansante lounge club à partir de 22h. Possibilité de privatisation pour vos fêtes d'anniversaire, baptême, mariage ou repas d'affaires. Restaurant L'Aérodrome, rue du Moutier à Moisselles, une cuisine traditionnelle et faite maison. Rendez-vous sur Instagram pour suivre l'actualité des événements. Hello, c'est Terry de l'émission IDFM Caraïbes. Je vous donne rendez-vous samedi 18 mars à 21h en direct avec pour invité Monsieur Abel Louvès, artiste du label SMS Artiste. Soyez au rendez-vous samedi 18 mars à 21h en direct pour IDFM Caraïbes avec Abel Louvès.
Et surtout respectez-nous.
À samedi.